symboliquement, dans ma tête, je m'étais dit, bon, je vais me faire amputer. J'ai deux possibilités. Soit c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, ou je le vois comme une opportunité. Et pour moi, l'opportunité, c'était de me dire, eh ben, je vais avoir une reconstruction, donc je peux le voir comme une renaissance.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Ears London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures. Cet épisode vient clôturer un mois d'octobre rose. Sachant qu'en Suisse, une femme sur huit sera concernée par le cancer du sein au cours de sa vie, la sensibilisation à son dépistage précoce reste fondamentale. Et celles qui sont passées par l'annonce de la maladie le savent, une fois absorbé le choc du diagnostic, survient rapidement la délicate question de la reconstruction mammaire. Pour certaines, c'est une étape clé de leur guérison, tant physique qu'émotionnelle, alors que d'autres font le choix de ne pas procéder à leur reconstruction. L'hyperactive Natacha avait 41 ans quand elle a découvert son cancer du sein. Pour cette fonceuse, la reconstruction est devenue un chemin de renaissance.
J'étais donc en voyage d'affaires aux États-Unis et j'avais un kyste qui me gênait dans la poitrine. Et j'ai pris rendez-vous au travers de mon gynécologue en radiologie pour me faire vider mon kyste. Une dizaine de jours après, donc à mon retour, je suis allée en radiologie. Et comme ça faisait 18 mois que je n'avais pas fait de mammographie, ils m'ont fait une mammographie de routine. Ayant des seins kystiques, je faisais des mammographies régulièrement à mon jeune âge. Et ils m'ont demandé de refaire la radiographie, donc ça a commencé à m'interpeller. Ensuite, la médecin radiologue est arrivée, elle me demande comment je me sens. Et à ce moment-là, je m'effondre et je lui dis, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai une fatigue et je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, elle m'annonce qu'effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle et que j'ai la possibilité de reprendre rendez-vous pour faire une ponction ou elle peut le faire de suite. Alors, je choisis l'option de la faire de suite. Et donc, je me fais ponctionner sur trois foyers. Et puis, suite à cela, j'ai dû attendre donc, les résultats. C'était pendant les fêtes de Pâques. Ce qui fait que j'ai dû attendre quelques jours supplémentaires avant d'avoir un rendez-vous chez mon gynécologue. Pendant les fêtes de Pâques, on a eu un repas de famille. Et puis, j'ai craqué. J'ai craqué parce qu'une personne de ma famille m'a posé la question « Quel est ton prochain voyage, Natacha ?» Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Mon prochain voyage, c'est au cimetière. » Et j'ai essayé de me contenir, de faire la poker face. Et en fin de journée, j'arrivais plus. C'était trop lourd. Et j'ai profité d'un moment où personne n'était à table, où j'avais mon papa en face. Et puis je lui dis, mais enfin, papa, t'as pas remarqué qu'il y a quelque chose qui va pas? Et là, ben, je m'effondre et je leur dis. Puis, en plus, ils m'avaient appelé le soir même, sachant que j'allais faire une mammographie. Et j'avais dit, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je pensais vraiment réussir à gérer, mais je n'ai absolument rien géré en fait. J'ai été rattrapée par l'angoisse. Au retour donc des fêtes de Pâques, donc le mardi, je demande à mon cabinet de gynécologie quelle est la graduation qui a été mentionnée par la radiologue pour déjà que j'ai une idée. parce que j'étais complètement dans le flou. Et là, elle me répond, et puis c'était 95% de chances que ce soit un cancer. Et donc, le mercredi, le lendemain, je vais à mon rendez-vous gynécologique pour avoir les résultats. Et effectivement, il m'a expliqué que ce n'était pas une bonne nouvelle. Donc, il m'a fait un schéma. Il m'a dit qu'il avait déjà discuté avec les autres médecins dans son groupe et que j'avais 3 tumeurs. Et il m'a dit que c'était très compliqué à ce moment-là, par rapport à ces tumeurs, de pouvoir faire une chimiothérapie et faire une tuméroctomie par la suite. Donc, il m'a expliqué que l'option qu'il préconisait était la mastectomie. Ensuite, il me dit que c'est mieux de faire une double mastectomie. Alors, j'assimile vite les informations, ça ne me fait pas peur, je travaille dans le monde médical, donc je sais à quoi m'en tenir, je comprends tout ce qu'il me raconte. Mais par contre, je lui dis, mais enfin, docteur, ça fait depuis toujours que je dois justifier que j'ai des vrais seins. Et là, vous êtes en train de me dire que je dois me les faire enlever, les deux en plus, alors que j'ai un sein qui n'est pas malade. Et puis, évidemment, il rigole, et, parce que je trouvais que la petite touche d'humour avait sa place à ce moment-là. Et puis, il me dit, faire une double mastectomie, c'est aussi un suivi qui sera plus simple. Et aussi, visuellement, dans la reconstruction, c'est plus joli.
La docteure Samia Guérid, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique à la clinique Cécile.
On va parler de reconstruction très en amont des diagnostics de cancer. Donc le chirurgien plasticien fait clairement partie intégrante de l'équipe oncologique au même titre qu'un pathologiste, qu'un radiologue, qu'un radiothérapeute, qu'un oncologue et évidemment que le chirurgien sénologue et les infirmières référentes. Pourquoi on est là en amont ? Parce qu'en fait, on va évaluer quelle est la faisabilité d'un traitement oncologique chirurgical en fonction du sein de la patiente. C'est-à-dire qu'on va regarder alors en premier lieu si c'est un sein qu'on pourrait conserver, c'est-à-dire ne pas ôter et donc ne pas forcément devoir le reconstruire vu qu'il n'a pas fait l'objet d'une mastectomie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si une mastectomie est indiquée, elle l'est déjà de manière pluridisciplinaire, donc ce n'est pas une décision qui va reposer sur une seule personne. Et puis, on va intervenir très précocement dans ce traitement, d'une part pour répondre déjà aux éventuelles questions que va se poser évidemment une patiente qui est mise face à ce type de chirurgie et souvent de mutilation. Donc déjà de répondre en amont aux éventuelles interrogations et effectivement de se poser la question de savoir si ce sein pourrait être construit dans le même temps que son ablation ou s'il doit faire l'objet d'une reconstruction qui est secondaire, qui est dite secondaire, c'est-à-dire dans un deuxième temps, une fois que les divers traitements oncologiques nécessaires ont été faits.
La première chose que m'a dite mon médecin, c'est « vous allez vivre très longtemps ». Et ça, c'était c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ça va être que des histoires pratiques finalement. Je vais quand même acheter des petites gouttes pour calmer mon émotionnel. Je dois quand même m'emmagasiner le changement physique qui va survenir. Donc je vais sur Internet, je vais regarder à quoi ça ressemble. Puis tous les rendez-vous médecins se sont enchaînés. Donc je suis allée voir ma chirurgienne plasticienne. Et là, il y a beaucoup d'informations qui sont données. Ensuite, il y a l'oncologue, il y a énormément d'informations. Puis je ne sais toujours pas à quoi je vais ressembler. Donc c'était plus ce côté-là qui était le angoissant.
Moi, je reçois des femmes qui viennent d'avoir un diagnostic. Donc il y a évidemment la question de tout d'un coup de la maladie qui fait irruption dans un quotidien qui allait bien. On voit des femmes de plus en plus jeunes et qui sont tout d'un coup arrêtées dans leur chemin de vie. Donc ça peut être un mauvais moment professionnel, ça peut être justement au moment où un couple est en train de se séparer, ou alors même au sein d'un couple qui va bien, une crise qui malheureusement doit se vivre. Donc des étapes qui sont souvent très très difficiles. Ce qui arrive en deuxième lieu, c'est évidemment la mutilation. C'est comme ça que la plupart des patientes le verbalisent en disant « je ne me suis jamais imaginée sans un sein ». C'est impossible pour moi, je ne me reconnais pas. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est souvent des femmes qui arrivent avec des robes très décolletées. Au moment où elles me voient, elles me disent ben, « je profite de la portée parce qu'en fait, je vais avoir une mastectomie et ça, c'est des vêtements que je ne pourrais plus mettre et je ne m'étais jamais rendu compte qu'en fait, peut-être un jour, je ne pourrais plus. » Donc, c'est effectivement au-delà des questions de vie et de mort qu'elles m'apportent peut-être moins et qui sont peut-être plus traitées dans le cabinet d'un oncologue, mais plus les questions finalement de mutilation et du corps un petit peu symbolique au sein d'une société.
Les options de reconstruction varient en fonction du diagnostic et de différents facteurs à prendre en compte.
Si on est en face d'une mastectomie, alors là va se poser différentes questions parce que non seulement il va s'agir de traiter l'étui de peau, il va aussi s'agir de reconstruire le volume du sein. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains cas, on va pouvoir conserver la peau du sein et ne remplacer que son volume, ce qui permet évidemment de conserver une peau qui est la peau native de la région, de conserver évidemment la plaque aréomamelonnaire, c'est-à-dire le mamelon et la portion pigmentée au pourtour qui symboliquement représente quand même le sein et permet souvent à la patiente de mieux l'intégrer dans son nouveau schéma corporel. Et puis parfois, malheureusement, c'est pas possible de garder la peau. Donc à ce moment-là, on va devoir reconstruire ces deux choses, c'est-à-dire la peau et le volume. Globalement, il faut peut-être subdiviser les reconstructions mammaires en reconstructions par prothèse ou les reconstructions par lambeau. Les reconstructions par prothèse, on va utiliser des prothèses qui sont strictement les mêmes que les prothèses utilisées en chirurgie esthétique. Il n'y a pas de différence, hormis peut-être le choix de la taille de l'implant et de sa projection, c'est-à-dire de sa hauteur qui va être un petit peu différente dans le cadre d'une mastectomie. Et puis, les reconstructions par lambeau qui vont... Un lambeau, c'est une unité de peau, os, muscles, graisse qui va être prélevée sur un endroit du corps pour être transposée, c'est-à-dire mise à la place d'un autre endroit. Ces indications, c'est-à-dire le choix de ce type de reconstruction, va dépendre évidemment de la morphologie de la patiente, de son souhait, encore une fois, avec des avantages et des inconvénients dans les deux cas de figure. Non seulement il y a la morphologie de la patiente, donc c'est vrai qu'un sein petit pourrait tout à fait faire l'objet d'une reconstruction par prothèse, parce que c'est souvent des seins qui sont ronds, qui ont une morphologie qui va bien avec une prothèse, est souvent porté par une femme qui est mince et qui va avoir forcément peu de tissu donneur sur d'autres régions du corps. Encore une fois, ça c'est pas absolu, parce qu'avec le développement récent des nouveaux lambeaux, on peut même trouver des zones donneuses sur des patientes fines. Plus on va avoir une poitrine qui est large, qui est volumineuse et qui forcément, par la force des choses, va avoir une tendance à tomber sur le thorax, la reconstruction par prothèse va donner des résultats peu gracieux, parce que en fait, peu naturel, surtout par rapport au sein contralatéral. À l'heure actuelle, les doubles mastectomies qui sont effectuées sont soit liées à une atteinte bilatérale, c'est-à-dire la patiente a malheureusement la présence concomitante d'une tumeur dans chacun des seins, soit la patiente a une mutation génétique, et il y a énormément de femmes qui font le choix d'obtenir une double mastectomie qui est dans ce cas-là préventive. Et puis la dernière catégorie, c'est des patientes qui effectivement ont un cancer dans un sein, ne souhaitent pas revivre ça, ne souhaitent pas conserver du tissu mammaire et qui dans ce cas-là font la demande d'une mastectomie. Alors c'est une possibilité qui est tout à fait légitime d'un point de vue médical et sociétal. Elle n'est malheureusement à l'heure actuelle souvent pas remboursée par les caisses maladies et il n'y a pas forcément toutes les patientes qui ont malheureusement les moyens de mettre cet argent à disposition.
Pour Natacha, qui doit donc subir une double mastectomie préventive, le moment de l'intervention arrive et ne lui fait pas perdre son sens de la dérision.
Je plaisante encore avec mon gynécologue chirurgien où je lui demande s'il a bien chargé sa voiture électrique, s'il a déjeuné, s'il est en forme, si tout va bien. Puis je lui dis vous vous tromperez pas de sein. Donc étant donné que je me suis fait enlever les deux, voilà, donc j'ai fait ma petite touche d'humour. Et puis je me suis réveillée. Et en fait, pour moi, symboliquement, dans ma tête, je m'étais dit, bon, je vais me faire amputer. J'ai deux possibilités. Soit c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, ou je le vois comme une opportunité. Et pour moi, l'opportunité, c'était de me dire, eh ben, je vais avoir une reconstruction, donc je peux le voir comme une renaissance.
Chirurgicalement, on va avoir une double équipe, c'est-à-dire une équipe de chirurgiens sénologues qui vont, eux, s'attacher à ôter le sein en gardant la peau ou non, ça va dépendre un petit peu en général. En général, on va avoir tendance à garder l'étui de peau, ce qui permet la reconstruction en un seul temps. Cette équipe va s'attacher à avoir une mastectomie qui est oncologique et ne va pas se poser la question des résultats cosmétiques. Il va y avoir une équipe de chirurgiens plasticiens qui, eux, vont s'atteler à reconstruire ce sein de la meilleure manière qui soit, sans s'attacher aux préoccupations oncologiques, d'où le grand principe de la séparation des équipes. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les chirurgiens vont mettre soit un lambeau, soit une prothèse sous la peau qui aura été laissée par les chirurgiens sénologues, voilà, ce qui définit par là même la reconstruction immédiate. Autre cas de figure de reconstruction immédiate, on peut des fois être amené à devoir faire des mastectomies classiques pour diverses raisons, soit parce qu'il y a une atteinte cutanée, soit parce que la patiente a un sein trop volumineux et qu'il devient dangereux d'en conserver l'étui de peau. On va poser ce qu'on appelle un expander, qui est un ballonnet gonflable qui va se poser au moment de la mastectomie dans une position sous-musculaire, c'est-à-dire en arrière du muscle. Donc la patiente va se réveiller avec une mastectomie, mais un dispositif qui est déjà posé et qui va permettre un gonflage au cours des semaines qui vont suivre pour récupérer un étui cutané.
Je me réveille donc suite à la mastectomie et je pensais être complètement plate. Et puis, je vois qu'il y a un petit rebondissement. Alors, ça fait plaisir parce que ça, c'est un côté féminin qui est quand même présent. Et donc, la chirurgienne plasticienne a donc posé des expandeurs. Étant donné que je fais 1m70 et à l'époque, je faisais 49 kilos, donc c'était la seule méthode qui m'a été proposée. Avec les expandeurs, et ils ont dû vérifier à l'opération aussi que j'avais pas les ganglions qui étaient atteints, parce que poser des expandeurs avec des ganglions atteints qui nécessitent une radiothérapie, ça fout tout en l'air. Donc du coup, que des bonnes nouvelles, tout va bien. Et suite à cela, donc j'essaie les expandeurs. L'opération est quand même très 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 douloureuse. C'est très très douloureux. J'ai voulu sortir plus vite que ce qui m'a été demandé, donc je suis sortie plus vite. J'en avais marre, je voulais sortir. Donc j'ai regardé sur YouTube comment est-ce qu'on enlevait des drains. Et quand le médecin est venu, j'avais déjà tout pacté, j'avais appelé mon papa, je lui avais dit « prépare-toi, je vais sortir ». Et il m'a dit « mais le médecin, il est au courant ?» Il dit « non, mais il va l'être ». Et quand le médecin est arrivé, j'étais assise sur le siège visiteur, et puis il regarde le lit qui était vide, et il me dit « Ah, bonjour, la visite !» J'ai dit « Oui, vous ne le savez pas encore, mais ce soir, je sors. » Et il me dit « On va déjà regarder les drains. » J'ai dit « Ils vont très bien, les drains. Regardez, si vous ne voulez pas me les enlever, je les garde, je rentre. » Et j'ai vu sur YouTube, je saurais les enlever toute seule, pas de problème. Donc, un petit peu mis sous le fait accompli, mais comme il n'y avait plus trop de sang, c'était tout bon. il a dû se dire que... Ouais, enfin bref. Et puis, après à la maison, c'était quand même très difficile. J'étais très essoufflée parce que les expandeurs sont quand même mis sous le muscle. C'est douloureux. J'avais pas le droit de conduire en 2 jours. J'ai une infirmière de liaison qui est venue, qui m'a aussi expliqué beaucoup de choses. Qui m'a dit qu'il ne fallait pas trop conduire, qu'il fallait rester calme, un terme que je ne connaissais absolument pas. Et en allant à ma boîte aux lettres, j'étais déjà complètement essoufflée. Je voyais que ce n'était pas possible. Donc j'ai dû ralentir, ça m'a forcé à ralentir.
À partir de 3 semaines post-opératoires, si tout se passe bien, effectivement, il va y avoir des visites hebdomadaires de la patiente au cabinet, où on va repérer la position de la valve métallique au sein de l'implant qui aura été posé. Et puis, on va planter une petite aiguille au sein de cette pastille métallique pour gonfler ce dispositif chaque semaine. Donc, en fait, avec beaucoup d'humour, il faut voir les choses comme une patiente qui va avoir une croissance mammaire accélérée et une nouvelle puberté chaque semaine au cabinet. Voilà. Ce qui est intéressant avec ce type de dispositif, c'est que c'est progressif, donc la patiente va voir une progression de la taille de ses seins, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle va pouvoir arrêter la progression de ce gonflage au moment où elle estime qu'en fait, ça correspond à ce qu'elle souhaitait, ou ce qu'elle avait, ou ce qu'elle aimerait de nouveau.
Avec les expandeurs, il faut les faire gonfler pour créer la cavité. Et je suis allée donc chez ma chirurgienne plasticienne pour les faire remplir. Alors je lui disais, vous les remplissez à fond là, vous allez au max possible. Et puis elle remplissait, puis elle disait, ça va, ça tire pas. Non, allez-y, remplissez. Je voulais que ça se passe le plus vite possible. Et à chaque consultation, qui était une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, plus ou moins, j'avais les expandeurs qui gonflaient, donc la peau qui se tendait, je sentais absolument rien. Et je reprenais des formes. Et je me disais, maintenant j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, je revis une adolescence, mais avec la personne que je suis à 41 ans et pas la personne paumée que j'étais en adolescence. Donc c'était aussi symboliquement une très très jolie étape. Et après, il a fallu rester encore, en tout, il faut 4 mois avec les expandeurs dans le corps. Et ce qui était pénible, c'était dormir, parce que c'est dur comme du béton. Et quand je me tournais, ça me faisait mal. Si je dormais sur le côté, ça me faisait mal. Donc, j'ai quasiment dû dormir sur le dos pendant 4 mois. Donc, c'est pas agréable. En plus, il y a l'hormonothérapie, après qui arrive, il y a tout un chamboulement dans le corps. Enfin, tout ensemble... J'étais fatiguée, très 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 fatiguée.
Avec toutes ces conséquences, la reconstruction ne doit pas devenir une nouvelle injonction et le choix de ne pas reconstruire est toujours ouvert.
La possibilité de ne pas reconstruire un sein, moi c'est quelque chose que j'évoque toujours en consultation, même très précocement. En tout cas, ça fait partie des options que je propose parce que j'ai trop vu de patientes qui finalement m'ont dit « mais moi, je me suis sentie forcée, en fait, ça ne me dérange pas tellement ». J'ai même été jusqu'à ôter des reconstructions que j'avais faites, des patientes qui me disaient « je ne me voyais pas être plate, je ne me voyais pas avoir un thorax qui est mis à plat ». Maintenant, j'ai passé par un chemin de chimiothérapie, radiothérapie, en fait, c'est plutôt la prothèse qui me dérange, est-ce que vous êtes d'accord de tout enlever ? Donc ça, c'est une possibilité qui existe. C'est là que probablement on manque un petit peu de modèle de ce type de décision. Donc il y a des patientes qui ne reconstruisent pas parce qu'elles ne peuvent pas, pour des raisons de santé, ou on évoque des fois l'âge. Pour moi, c'est un indicateur, mais ce n'est pas parce que la patiente est âgée que je vais forcément proposer une non-reconstruction. De même qu'il y a des patientes jeunes, de plus en plus, qui font le choix de se dire « je ne veux pas de corps étranger, je ne veux pas être opérée sur d'autres régions et je ne veux pas de reconstruction, finalement je suis bien dans mon corps ».
Natacha, elle, sa reconstruction, elle l'a vécue comme une propulsion vers la guérison.
La reconstruction, c'était quelque chose qui en fait avançait et qui se faisait et qui était présent et qui évoluait. J'ai eu l'opération avec les prothèses définitives au mois de septembre. Puis l'opération s'est très très bien passée. J'ai eu une petite rougeur. La chirurgienne plasticienne m'a dit « Non, vous ne me faites pas une infection ». J'ai dit « Non, il n'y aura pas d'infection ». J'ai quand même aussi appelé une dame qui fait coupe-feu, qui aussi limite les saignements, la douleur, pour mettre toutes les chances de mon côté. Esthétiquement, j'étais très contente, mais alors après, il manque la plaque, la PAM, la plaque aéromalmonaire. Donc ça fait bizarre. Il manque un élément, ça fait extrêmement bizarre. Mais esthétiquement, oui, c'était magnifique. Ça l'est toujours. Et aussi, je me suis aussi préoccupée de mes cicatrices. Je les ai soignées depuis le jour 1, où je suis allée faire de la physiothérapie. J'ai mis de la crème matin et soir. Je n'ai jamais loupé un jour. Pour moi, c'était dans mon état d'esprit, c'était si je veux des seins parfaits ou proches de la perfection, et moi je dois y mettre du mien aussi. Ça ne va pas arriver sans rien faire. Et j'ai pris sur moi, c'est pas évident de se regarder, il manque, il y a pas de téton, il y a pas de mamelon, il y a rien, ça donne. C'est joli, mais c'est pas fini et c'est bizarre. Puis après, il y a aussi la texture, le toucher, tout ça. C'est particulier, il faut se le réapproprier.
Pour reconstruire un mamelon, il y a différentes techniques. on va utiliser pour la projection du mamelon, c'est-à-dire pour le petit relief, soit un lambeau local. Donc là, il existe plusieurs dessins en fonction de chacun des chirurgiens, mais le but étant de replier de la peau sur elle-même pour obtenir une petite projection. C'est une technique qui marche bien, mais qui a tendance un petit peu à s'aplatir et qui est souvent décevante avec le temps. Il y en a même qui renoncent au profit d'un tatouage en trompe-l'œil. L'autre possibilité, c'est la greffe mamelonnaire contralatérale, c'est-à-dire qu'on va prélever un bout de mamelon de l'autre côté, si le sein est toujours existant, pour venir le greffer à l'image d'une greffe de peau à l'endroit usuel sur le sein reconstruit. Alors ça donne évidemment de super résultats quand il n'y a pas de problème, parce que c'est exactement le même tissu, ça va garder la projection, et c'est vrai que dans l'intégration du schéma corporel, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Il y a juste parfois des patientes qui refusent catégoriquement qu'on touche le sein qui n'a pas été malade, ce que je comprends parfaitement. Donc c'est aussi une discussion. Après, pour l'aréole, à l'heure actuelle, je pense que la quasi-totalité des gens effectuent maintenant des tatouages qui sont faits soit par un médecin, soit par une infirmière, soit par des tatoueurs.
En décembre, j'ai fait les tatouages et pour moi, c'était, c'est la finalité, elle est là, c'est terminé, je recommence une nouvelle vie, c'est magnifique. Aujourd'hui, une fois, j'ai eu une conversation avec une amie et puis je disais, mais tu sais, moi, finalement, je pourrais même aller faire seins nus à la plage, ça ne me pose aucun problème. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des augmentations mammaires qui est beaucoup plus courant qu'à l'époque. Et puis, si on ne va pas venir regarder de très près ma poitrine, on ne verrait pas que c'est une reconstruction. C'est tellement bien fait qu'il faut vraiment aller tout près pour le voir.
La docteure Guéride rappelle toutefois que toute reconstruction comprend sa part de risque.
Le gros inconvénient des implants mammaires, d'une part, c'est évidemment la présence d'un corps étranger. Corps étranger qui peut s'infecter au décours des premiers temps post-opératoires et nécessiter malheureusement son retrait. C'est quand même un dispositif qui ne se défend pas, qui n'est pas fait de tissu biologique, qui a donc un potentiel infectieux, qui est souvent extrêmement mal vécu quand on doit aller déposer une reconstruction. C'est aussi un dispositif qui n'est pas définitif. Les prothèses mammaires ont une certaine durée de vie. On sait qu'on a un pic de rupture à 6-8 ans, mais on va avoir un jour une rupture, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir changer. Et dernier gros inconvénient des implants, c'est vrai que quand les patientes ont eu de la radiothérapie, on a fréquemment des problèmes de capsulite, ce que les gens appellent rejet communément, mais de durcissement d'implant avec un résultat cosmétique qui est largement dégradé. Du point de vue des lambeaux, on a effectivement une solution qui est définitive, qui est naturelle, parce qu'il s'agit du tissu propre de la patiente, donc ça va vieillir avec la patiente de manière tout à fait naturelle. Et effectivement, ça apparaît comme la solution la plus favorable. Par contre, ça va nécessiter d'aller prélever des tissus ailleurs sur le corps, donc une chirurgie qui est beaucoup plus lourde, avec un risque pour certains lambeaux d'échec d'environ 5%, c'est-à-dire un lambeau qui ne va pas s'adapter sur son site receveur et qui va aussi malheureusement causer un échec.
Décembre, ben c'est terminé, nouvel an, on recommence la nouvelle année et tout à coup, il y a l'aspect psychologique là qui est arrivé. Un gros creux psychologique où je me dis ça va pas du tout. Pourquoi est-ce que ça va pas? Je comprends pas. Tout s'est bien passé. Mais je pense qu'effectivement, j'avais oublié l'aspect émotionnel et psy d'une intervention de cette ampleur et de toutes les étapes. Mon corps va bien, tout est nickel, tout est parfait, mais je ne suis plus la même. Et pour le reste de mon entourage, que ce soit le travail ou dans la vie privée, leur vie, elle n'a pas changé. Mais la mienne, oui. La mienne, elle a changé. Et je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas... J'ai plus de cancer, il est fini. Je ne peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Donc c'est compliqué à gérer, très compliqué à gérer.
C'est tout d'un coup des patientes qui se retrouvent seules. Il n'y a plus d'intervenants médicaux. Le médecin traitant dit, bon, ben voilà, ouf, c'est passé, vous allez bien. Le conjoint ou conjointe, si on a une, va tenir le coup et va reprendre aussi le cours de sa vie. Les amis qui étaient très présents, la famille, ont aussi estimé qu'elles ont fait leur part. Et c'est tout d'un coup des patientes qui se retrouvent seules et qui ont tendance à craquer à ce moment-là.
De mon initiative, je suis allée consulter un médecin psychiatre, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'y vais toujours d'ailleurs. Depuis le mois de septembre cette année, donc ça fait 4 ans, j'ai réduit les séances à une fois par mois. Donc je la voyais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, et maintenant une fois par mois. Donc j'ai quand même eu un besoin conséquent. Et c'est aussi intéressant de pouvoir passer par ces étapes.
La reconstruction mammaire, choix a priori intime par excellence, ouvre aussi une réflexion plus large sur la place du corps des femmes et les attentes qui y sont rattachées dans la société.
Avec les avancées sociétales en termes de féminisme, finalement, la question que je me poserais et que je trouve intéressante à poser, c'est à qui appartiennent les seins ? En fait, est-ce qu'on parle d'un sein qui appartient au corps qui les porte ? Est-ce qu'on parle du sein social qui appartiendrait presque à la société et qu'on a érigé en symbole de la féminité ? Est-ce que j'adhère à ça ? Je dirais non. Est-ce que certaines femmes adhèrent à ça ? Oui. On va parler évidemment d'image corporelle. Et la seule chose que je relèverais un petit peu dans les modèles et les images, c'est qu'on manque de modèles pour parler d'une maladie qui, en fait, va transformer le corps sociétal, le corps qu'on montre, et qui va radicalement le modifier alors que personne ne s'inquiète qu'on reconstruise un appendice une fois qu'on a une appendicectomie. Donc il y a vraiment cette idée d'image corporelle qu'on véhicule dans la société et qui, effectivement, apparaît symboliquement chargée de féminité, de maternité, de séduction, de confiance en soi. Est-ce que c'est vrai pour toutes les femmes ? Je ne suis pas sûre. Et je pense qu'en fait, les femmes surtout se posent ces questions-là au moment du diagnostic, alors qu'avant, finalement, tout allait bien. J'ai aussi des femmes qui me disent à ce moment-là, oh, vous savez, en fait, moi, je n'ai jamais aimé mes seins. Alors, si on les refait, est-ce qu'on peut faire comme ci, comme ça ? Et là, on va peut-être avoir une réappropriation d'un corps qui était pas tellement narcissisé avant.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur la reconstruction mammaire en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.